Bienvenue dans la clé de la voix. Ensemble, partons à la rencontre d'artistes et de professionnels de la voix pour découvrir leurs astuces et vous aider à développer votre propre voix. Je suis Clémentine Coppolaigne, la créatrice de ce podcast. Je suis chanteuse, mais aussi coach vocal et formatrice. La clé de la voix est en association avec la maison de la voix. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Pour le soutenir, mettez un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Je remercie ceux qui prennent le temps de le faire, mais aussi ceux qui partagent ou qui parlent du podcast. Ça m'aide beaucoup à le faire découvrir. Je vous propose des exercices gratuits à télécharger, le lien est en barre d'infos ou sur laclédelavoix.com/3superexercices pour apprendre à maîtriser sa voix. Un épisode sur l'improvisation et l'art de la scène avec Cyril Aimé. Artiste nommé aux Grammys, Cyril nous partage les leçons acquises face au public lors de concours comme celui du mythique Apollo Théâtre de New York. Nous parlons d'échecs, de prendre sa place auprès des musiciens comme sur scène, d'oser l'imperfection à l'heure de la comparaison incessante sur les réseaux sociaux. Cyril Aimé nous donne ses conseils de rythme et d'interprétation qu'elle transmet à ses élèves. Si vous êtes dans la région parisienne, foncez l'écouter à Blois pour son concert All That Jazz le 21 mai 2022. Sans plus tarder, je vous laisse découvrir son épisode. Bonjour Cyril.
Bonjour.
Je suis ravie de votre présence dans le podcast. On m'a souvent demandé de vous inviter en message privé et puis vous étiez l'invité rêvé de la chanteuse Naïma Naouri. Je demande souvent aux invités leur premier souvenir marquant en lien avec la musique. Est-ce que vous voulez bien nous raconter l'un des vôtres, hein? Je crois que c'était avec les musiciens Manouche dans votre enfance.
Ça, c'est un des premiers quand j'ai commencé à avoir envie de faire de la musique. Mais quand je suis tombée amoureuse de la musique, c'était en République Dominicaine. Ma mère est dominicaine et pour moi, la musique, c'était pour danser, quoi, pour faire la fête. Et elle m'a vraiment transmis ça. J'ai grandi à Samois-sur-Seine et donc là, il y a des Manouches qui viennent pour rendre hommage à Django Reinhardt parce que c'est son village. Et là, quand j'étais petite, je me suis liée d'amitié avec les Manouches et c'est là où j'ai commencé à vraiment m'intéresser à l'improvisation, en fait, cette partie-là de la musique.
Et qu'est-ce que vous avez appris à leur côté?
Waouh, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai vu comment leur musique était vraiment liée à la manière dont ils vivent. C'est vraiment des gens du moment présent. Vraiment un peuple très vrai, très vulnérable et ça se montre dans la musique. Et du coup, j'ai appris ça, vraiment à être dans le moment présent quand on fait de la musique, d'être toujours ouvert et honnête.
Oui, alors c'est un podcast qui est écouté par beaucoup de chanteurs, de professeurs de chant. Est-ce que vous auriez des conseils à nous donner pour arriver à être dans le moment présent quand on chante?
Eh ben, il faut se rappeler que c'est pas nous le centre du monde, qu'en fait on est là pour la musique, on est là pour vraiment rendre hommage à la musique. Et donc pour se rappeler de ça, il faut se concentrer sur quelque chose qui n'est pas nous. Donc moi, quand je trouve que je suis dans ma tête, je me concentre sur le guitariste ou le pianiste, ou je me concentre vraiment sur le groove, j'essaie de le sentir dans mon corps, ou je me concentre sur les paroles. Ça me sort de ma tête. Et voilà, en fait, c'est vraiment de se concentrer sur quelque chose qui nous sort de nous-mêmes.
Oui, vous avez beaucoup voyagé, vous avez tourné en tant que chanteuse de jazz en République Dominicaine. Vous étiez, je crois, la seule chanteuse de jazz, puis vous avez eu envie de vous confronter aux autres. Vous êtes allée étudier le jazz selon l'école new-yorkaise. Qu'avez-vous appris là-bas qui pourrait être utile à tous les chanteurs qui nous écoutent?
J'ai appris à vraiment être dedans, quoi, être sur scène et à travailler avec des musiciens. J'ai appris que, en fait, en tant que chanteur, dès qu'on arrive sur scène, dans une jam session, par exemple, on devient le directeur, quoi, le band leader. Et du coup, il faut un peu savoir où on va et si on sait pas, faire croire qu'on sait. C'est comme si on était le capitaine d'un bateau et puis le bateau il a touché l'iceberg. Tout le monde veut être sûr que le capitaine il sait ce qu'il faut faire même si bon il a aucune idée. Mais je vois souvent dans les jam sessions des jeunes chanteurs qui arrivent et qui demandent la permission, enfin qui ont peur d'être là, qui ont l'impression qu'on veut pas d'eux parce que les jam sessions ça peut être un peu agressif. Et en fait il faut prendre la place. J'ai appris ça qu'il faut prendre la place et quand on arrive sur scène à parler au pianiste mais aussi au bassiste, au batteur pour leur dire quel morceau on va faire. Voilà, j'ai appris vraiment à communiquer avec les musiciens.
Est-ce qu'il y a des situations qui vous ont aidé à cheminer, que vous aimeriez nous transmettre?
Ouais, j'ai fait beaucoup de compétitions. Il y en a plusieurs que j'ai gagnées, mais il y en a beaucoup aussi que j'ai pas gagnées. Et celles-là m'ont appris énormément, notamment la compétition du Apollo Theater à Harlem. Ça s'appelle Amateur Night. Et en fait, le logo, c'est Be Good or Be Gone. Ça veut dire soit bon ou va-t'en. J'en ai fait partie. On était là depuis 3h de l'après-midi à faire les balances, à faire les répétitions avec le groupe, à faire le maquillage et tout ça. Et voilà, quand c'est l'heure du show à 20h. Et maintenant, prochaine candidate, Cyril Aimé. Et là, j'arrive sur scène, je commence à chanter. À peine j'ai ouvert la bouche que ça commence. Partout dans la salle à huer. Et il faut continuer à chanter jusqu'à ce que le juge, il décide que c'est un vrai officiel, que c'est hué. Et il sonne l'alarme. Et là, il y a un gars qui vient et qui te frappe avec un bâton pour que tu sortes de la scène. Et donc, je continue à chanter parce que le juge, il avait pas encore sonné la balance, l'alarme. Et j'étais là en train de chanter avec ma main en l'air là, pour dire, s'il vous plaît, donnez-moi une chance. Et pendant que je chantais, je voyais les mamies là en train de huer, les petits enfants en train de huer, 1500 personnes en train de me huer. Et voilà, ça a duré moins d'une minute, mais j'ai l'impression que ça a duré une éternité. Et quand je suis sortie de scène, finalement, après m'être fait chasser par le mec avec le bâton, eh ben, c'était très 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 dur. Mais je me suis dit, eh ben là, j'ai plus peur quoi, il peut rien m'arriver de pire que ça. Et du coup, 6 mois plus tard, j'y suis retournée. Et j'avais appris que j'avais fait un arrangement un peu qui commençait tranquille et qui allait monter et tout, et j'ai même pas eu le temps d'aller là. Du coup, j'ai commencé avec un arrangement qui, d'entrée, était à fond, et puis j'ai gagné. Et du coup, j'ai appris que, en fait, je vais toujours traverser des moments difficiles et des obstacles et des moments où j'ai l'impression que rien ne va plus, mais tout le monde passe par là, et en fait, ceux qui s'en sortent, c'est ceux qui remontent, c'est ceux qui se relèvent et qui réessayent.
Alors, ça vous a donné envie en vous disant, voilà, il y aura rien de pire.
Bah ouais, et puis voilà, ça m'a appris énormément. Du coup, j'aime bien me retrouver dans des situations difficiles parce que c'est que comme ça que j'apprends. Sinon, si je suis toujours dans ma zone de confort, je peux pas grandir.
Oui. Quel rapport entretenez-vous maintenant avec votre voix ?
En ce moment, c'est un peu difficile parce que j'ai eu le Covid en janvier et depuis, je me sens plus vraiment moi-même. Et maintenant, depuis le Covid, j'ai des problèmes d'hyperthyroïdie et c'est juste là, sur la gorge. Du coup, j'ai un peu toujours la gorge enflée. J'ai dû annuler toutes mes tournées en mars pour pouvoir me reposer. Mais là, je recommence à chanter.
Je savais pas du tout.
Ouais, c'était assez difficile, mais là, bon, je m'y suis faite. J'ai toujours encore un peu mal à la gorge, mais ça fait partie de ma vie. Et du coup, je m'y suis faite et maintenant, je continue à chanter. Là, je suis en train d'enregistrer un nouvel album cette semaine à New York. Et la semaine prochaine, je joue à Birdland toute la semaine. Puis après, je vais en tournée en Europe. Mais ouais, ma relation avec ma voix, en ce moment, c'est un peu difficile. Il faut que je trouve une manière de pouvoir être en bonne santé. Parce que quand on est en tournée, c'est très difficile de dormir, de se reposer, de bien manger. Du coup, ouais, c'est un travail difficile, mais ça vaut le coup après quand on est sur scène.
Est-ce que vous avez des rituels qui vous aident ? Comment est-ce que vous prenez soin de votre voix ?
J'essaye de dormir. Déjà, je bois pas, je fume pas. Et j'essaie de m'écouter quand je suis fatiguée, de pas trop parler, quoi. J'essaie de reposer ma voix. J'aime bien voir des films, mais j'ai pas vraiment des rituels. Je bois beaucoup de tisane.
Up all my cares and woes, here I go singing low. Bye bye, blackbird, where somebody waits for me. Sugar sweet, so is she. Bye bye, blackbird. No one here can love or understand. Oh, what hard luck stories they all hand me. Make my bed and light the light. I'll be home late tonight. Blackbird, bye. Mm-hmm.
J'avais vu un de vos TEDx, hein, vous parliez de votre posture. Vous racontiez que pendant un certain temps, vous mettiez votre main devant le visage pour essayer de vous cacher un petit peu sur scène.
Oui.
Comment avez-vous réussi à modifier votre posture pour aller vers les autres et être vraiment dans l'ouverture et habiter la scène?
Eh ben, c'était petit à petit, mais quand j'étais, je sais pas si je l'ai dit dans le TEDx, mais quand j'ai fait la compétition monte, j'avais chanté pareil avec ma main là. Et Wayne Shorter lui-même m'a dit « Get that hand off your face ». Donc ça, déjà, ça a un peu aidé.
Oui, venant de Wayne Shorter.
Ouais. Quand c'était ma mère qui me le disait, ça me passait au-dessus de la tête. Mais bon, quand c'est Wayne Shorter, c'est autre chose. Et puis ensuite, plus tard, j'ai commencé à jouer à Birdland tous les dimanches. C'est le patron de Birdland qui commençait à me dire « Mais Cyril, ouvre les yeux et regarde les gens à gauche au bar et regarde les gens à droite sur les tables. » Et du coup, je me forçais. Et après, en me forçant, j'y ai pris goût parce que quand on regarde les gens, on voit les sourires et puis on arrive mieux à communiquer du coup les paroles et on entend plus ce qu'on raconte puisqu'on voit les réactions. Du coup, j'ai commencé à y prendre goût. Et puis aussi, j'avais un gig tous les samedis dans un restaurant avec un batteur. C'était le gig du batteur, c'est lui qui m'engageait. Et c'est lui qui me disait « Parle entre les morceaux, présente les musiciens. » Et j'étais « Mais non, je veux pas !» Et puis petit à petit, j'ai commencé à parler aux gens. Et en fait, maintenant, ça fait partie pour moi du plaisir d'être sur scène. C'est de vraiment de connecter avec le public et puis pas seulement à travers la musique, mais les faire rire et leur raconter un peu d'où viennent les morceaux et tout ça. Et donc pour moi, ouais, la présence scénique, ça fait partie de l'expérience de la musique pour le public.
I'll be seeing you in all the old familiar places that this heart of mine embraces all day through. Small cafe, the park across the way, the children's carousel, the chestnut tree, the wishing well. I'll be seeing you in every lovely summer's day, in everything that's light and gay. I'll always think of you that way. I'll find you in the morning sun, and when the night is new, I'll be looking at the moon, and I'll be seeing you.
Avez des conseils à donner par rapport à la présence scénique? Je crois que vous avez fait aussi beaucoup de théâtre.
Oui, j'ai fait du théâtre, ouais. Au début, si on est vraiment timide, je pense, il faut faire comme un jeu un peu. Moi, je faisais ça. Par exemple, on se dit, bon, bah, pour ce morceau-là, je vais pas fermer les yeux. Ou pour ce morceau-là, je vais regarder les gens. Et puis peut-être même en avance dire, oh, je vais raconter d'où vient ce morceau. Et même écrire un peu un texte. Mais pas que ce soit récité. Parce qu'après, quand on est en tournée et qu'il faut qu'on joue les morceaux tous les soirs, si on doit raconter le même texte, on s'ennuie vraiment. Juste commencer à se forcer, puis après, normalement, on y prend goût.
Oui, de marquer les mots-clés et se laisser porter par l'improvisation, puis ce qui peut se passer aussi avec le public. Qu'est-ce qui se passe maintenant quand vous êtes sur scène? Qu'est-ce que vous ressentez?
Ça fait trop du bien, parce que ça fait longtemps, presque 2 ans sans être sur scène. Pendant ces années, pendant la pandémie, c'était un peu genre, est-ce que peut-être je ferais autre chose de ma vie? Parce que il y a beaucoup de choses qui m'intéressent pendant la pandémie. J'ai construit une maison. Enfin, je suis devenue architecte pendant la pandémie. Il y a plein d'autres choses qui m'intéressent et des fois je me dis peut-être je voudrais faire une école de permaculture et nutritionniste. Mais après je me retrouve sur scène et je me rappelle en fait c'est ça. Je suis faite pour ça.
L'une des choses que vous aimez le plus, oui.
Ouais, j'aime trop être sur scène et jouer avec des super musiciens et m'envoler avec eux, voir ce qui va arriver. Vraiment, improviser, j'adore.
Thank you.
Deep is the ocean, how high is the sky? How many times a day do I think of you? How many roses are sprinkled with dew? How far would I travel to get where you are? How long is the distance from here to a star? And if I should ever lose you, how much would I cry? How deep is the ocean? How high is the sky?
Da 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 da
Est-ce que vous avez des conseils pour aborder l'improvisation ?
Pour apprendre à improviser, il faut improviser. Ça, c'est la première chose. Il faut juste se lancer. On peut pas dire ah « Non, je commencerai quand je serai sûre que je sais. » Non, non, non. Il faut commencer. Et pour commencer, moi, je conseille vraiment d'apprendre des solos, d'écouter des solos de... Pas que des solos de chanteurs. Hein. Y a Ella Fitzgerald, évidemment. Chet Baker, c'est un que j'aime beaucoup transcrire en scat. Mais aussi des solos instrumentistes. D'écouter Kind of Blue de Miles Davis ou Live at the Pershing de Ahmad Jamal. Et vraiment d'écouter jusqu'à ce qu'on connaisse tout par cœur. Et qu'après, on chante par-dessus. Moi, j'ai commencé par apprendre des solos de Django et Stéphane Grappelli. Avant même d'entendre Ella transcrire, parce que c'est un vocabulaire. Et du coup, on apprend le vocabulaire et après, on s'en sert. Et après, pour apprendre à s'en servir, il faut juste se lancer et pas avoir peur de ce qui sort. Être vraiment, vraiment honnête et vulnérable. Aimer le process, pas le résultat. Aimer improviser, pas oui. Aimer écouter son improvisation. C'est marrant parce que moi, j'adore improviser. Quand je suis sur scène, je m'envole et tout ça. Mais après, quand j'écoute, c'est hors contexte pour moi. C'est le moment, il est plus là. Mais ouais, c'est vraiment pas se juger pendant l'improvisation, sinon pas découvrir ce qu'on va découvrir, le moment. À vous.
Vous avez donné aussi beaucoup de cours de chant pendant le confinement. Est-ce que vous continuez toujours d'en donner ?
Oui, j'en ai donné en mars, par exemple, puisque j'ai annulé ma tournée. Mais quand je suis en tournée, c'est un peu difficile parce que je change de fuseau horaire tout le temps. Et du coup, c'est un peu difficile à organiser. Mais ouais, j'ai quelques élèves qui sont mes élèves depuis le tout début de la pandémie que je peux pas laisser tomber. Donc, je prends pas vraiment de nouveaux élèves quand je suis en tournée.
Quels conseils, quels exercices aimez-vous donner à vos élèves ? Quel pédagogue êtes-vous ?
Eh ben, on parle pas vraiment beaucoup de technique. Je suis pas très académique dans ma manière de chanter. Quand je suis arrivée à New York pour aller à l'école de jazz, j'étais la seule chanteuse pendant les 4 années. J'étais la seule fille dans la classe et j'étais que avec des instrumentistes. Donc moi, ce que j'enseigne surtout, c'est l'improvisation et puis voilà, être dans le moment présent et essayer de trouver sa vraie voix. J'essaie d'apprendre à être authentique. En fait, c'est un peu l'inverse d'apprendre. J'essaie de faire que les élèves désapprennent. Parce qu'on croit qu'il faut qu'on sonne comme ça, on croit qu'il faut qu'on sache aller haut, plein de trucs comme ça, et j'essaie de les faire revenir à leur voix, à eux, et de les faire tomber amoureux de leur son.
Comment est-ce que vous procédez ?
J'écoute, on parle. J'ai un don de savoir exactement qu'est-ce qu'il faut faire quand quelqu'un chante pour un peu les secouer. Donc par exemple, si j'entends une chanteuse et elle commence à chanter, et je vois que chaque note, elle dure, elle fait chaque note longue, et ben je vais dire, ok, chante ce morceau, mais t'as pas le droit de faire aucune note longue. Et tout d'un coup, ça ouvre une énorme porte qui était là qu'elle ne savait pas. Maintenant, elle peut utiliser des notes longues, des notes courtes. Et puis en même temps, c'est difficile au début parce qu'elle n'a pas l'habitude. Donc ça, c'est un exemple, mais il y en a mille. En fait, c'est des habitudes qu'on prend, qui s'attachent à notre son. Peut-être c'est notre son pendant ce moment-là, mais après, le moment, il n'est plus là. Et il faut se renouveler constamment et voir ce qui est nous et ce qui est les habitudes qu'on s'attache. Moi, quand j'étais à l'école, même pendant 4 ans, on n'a pas parlé de l'importance des paroles, aucune fois. Et du coup, j'ai l'impression qu'en jazz, c'est un peu mis de côté. Et pour moi, c'est le plus important. Même dans l'improvisation, si je crois à la chanson que je chante, si je vis les paroles, l'improvisation, ça va être carrément autre chose. Mais ce que je vois souvent, c'est les élèves qui chantent la mélodie, et après, ils font improviser, et ça n'a rien à voir. C'est comme s'ils changeaient de mode. Et pour moi, c'est un tout. Du coup, on parle beaucoup de ça. Des paroles. D'être dans l'émotion de la chanson. Et ça va changer l'improvisation. Tandis que si on est juste, ok, les accords, cool, on improvise sur les accords. Mais sans émotion, ça n'a aucun sens.
Comment faites-vous pour faire passer les émotions ?
Je les vis. Je laisse que les paroles me touchent au plus profond de moi pour pouvoir les vivre. Et c'est pas vraiment les paroles, littéralement, c'est pas vraiment ce qui est écrit, que ça veut dire, ce que l'auteur a essayé de dire, c'est comment moi j'interprète les paroles aujourd'hui. Et peut-être cette même chanson, je l'interpréterai différemment demain. Et quelqu'un d'autre l'interprétera différemment. C'est comment je laisse les paroles m'affecter, me toucher. Et il faut être vraiment ouvert pour pouvoir être touché. Mais il faut vivre ces paroles. Ça commence vraiment à les morceaux qu'on choisit. Des fois, j'ai des élèves qui chantent des morceaux et je dis, alors pourquoi tu chantes ce morceau? Et bah, je sais pas. Ça commence vraiment, bah, c'est nos messages, quoi. Qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'est-ce qu'on veut raconter? Qu'est-ce qu'on veut revivre? Et donc, ça commence par choisir le morceau. Pas trop essayer, quoi. Vraiment de laisser la musique faire ce qu'elle a besoin de faire sans être au milieu du chemin.
À propos de vos élèves, hein, vous avez dit en interview que le principal problème que vous rencontriez, c'était simplement qu'ils n'osaient pas. Comment faites-vous dans ces cas-là?
Déjà, il faut leur montrer ce qui est beau dans ce qu'ils font. En ce moment, en plus avec tous les réseaux sociaux et tout ça, on croit que tout le monde est parfait parce qu'on voit juste le dernier produit. Mais moi, c'est pour ça mon dernier album, c'est que des premières prises. J'avais envie d'inspirer mes élèves en leur montrant, voilà, il faut pas être parfait. Mon dernier album, il est vraiment pas parfait, mais c'est un duo et moi on a vraiment pris des risques avec le guitariste Michael. On s'est vraiment lâché et puis du coup, ça montre l'humanité dans la musique. Pour que les élèves osent, il faut leur rappeler que voilà, on a le droit de pas être parfait. On parle surtout de tout ça, des problèmes de devoir être parfait. Moi, j'ai enregistré mon premier CD, j'étais pas prête. Il fallait que j'enregistre mon premier CD pour pouvoir enregistrer mon deuxième.
Et oui, donc c'est quelque chose qui revient souvent, la comparaison avec les réseaux sociaux maintenant. C'est quelque chose dont on vous parle beaucoup, que vous ressentez.
Bien sûr, moi je le ressens. Je sais que tout le monde le ressent. C'est pas seulement dans la musique, dans le physique, dans les photos. L'impression d'avoir la vie parfaite et tout ça. Et du coup, les élèves, ils osent pas même enregistrer quelque chose, alors qu'ils sont super, mais ils osent même pas enregistrer parce qu'ils attendent d'avoir tout appris, mais ça n'arrivera jamais. Pour enregistrer un super album, il faut avoir enregistré plein d'albums pourris. Il faut d'abord apprendre, et comme je disais avec la compétition, il faut tomber et se relever. Par envie, parce qu'on a envie, mais on a peur, donc faut pas avoir peur.
Comment chauffez-vous votre voix là pour vous préparer au studio, au concert à venir? Est-ce que vous avez des vocalises? Est-ce que vous chantez plutôt des morceaux dans un certain ordre?
Ça, c'est quelque chose que j'aimerais commencer à faire et j'ai jamais vraiment appris, mais j'ai jamais vraiment fait de vocalises et d'échauffement. J'ai commencé à chanter avec les mains nouches. Après, je suis venue dans une école où j'étais la seule chanteuse, donc c'était pas vraiment un truc que j'ai appris. Maintenant, j'ai fait quelques cours de chant par-ci par-là, et quand j'ai fait ces cours de chant, on m'a échauffé la voix, mais j'ai jamais vraiment pris une habitude, une routine de le faire. Donc j'essaie juste d'être vraiment en écoute avec mon corps et avec ma voix, savoir où elle en est, et puis pas pousser si elle est pas réveillée. J'aime ma voix, qu'elle soit réveillée ou pas, en fait. Il faut que je chante différemment. Du coup, j'approche la chanson différemment. Ça me fait être encore plus dans le moment présent, parce que je peux pas la chanter comme j'ai chanté hier. Du coup, je fais avec et ça me procure une autre émotion. C'est comme ça que j'ai toujours fait. C'est comme, je me souviens, je faisais une répétition avec un pianiste chez moi et j'avais que un petit piano, un piano court. Et puis on jouait et puis il m'a dit « Waouh, je suis trop musicale là en ce moment parce que j'ai moins de touches. » Et du coup, il faut vraiment que je fasse de la musique dans ce peu de touches que ton piano il a. Et bah, c'est un peu pareil.
Et tout à l'heure, hein, vous parliez de la danse, des origines de votre maman qui est dominicaine. Est-ce que vous appuyez beaucoup sur la danse, sur le rythme pour ressentir le chant de cette façon-là?
Oui, bah oui, complètement. Notre instrument, c'est notre corps, hein. Et si on peut pas sentir le groove, l'instrument, il est pas en rythme. Pour moi, c'est très très important de sentir le rythme dans mon corps, pouvoir chanter ce rythme. Softly, as in a morning sunrise. The light of love comes stealing into a newborn day, flaming with all the glow of sunrise. A gentle kiss is stealing the vow that I'll betray. All the passions that thrill love lift too high to heaven. All the passions that kill love, let it flow away. So ends the story softly, as in an evening sunset. The light that gave you glory will take it all away.
Est-ce que vous avez des pratiques complémentaires qui vous aident à entretenir justement votre corps ou à dénouer des tensions ?
Quand j'avais le temps, quand j'étais pas toujours en train de voyager, je faisais du yoga. J'adore faire le vélo. J'adore le vélo. Et j'adore marcher aussi. J'aime danser. Il faut danser. J'ai fait danser mes élèves parce qu'ils sont musiciens mais ils dansent pas. Et bah, c'est là où il faut commencer. Il faut danser. Et ça veut pas dire de danser bien. Ils étaient timides, hein.
Oui.
Ça veut pas dire danser comme des danseurs, ça veut dire bouger et puis pas avoir peur de se lâcher un peu. J'ai mis du Earth, Wind and Fire et on a groové. On a échangé des 4x4 de danse. C'était cool. C'est important de se lâcher un peu. Ou pas prendre trop au sérieux, parce que surtout à l'université, ils prennent trop au sérieux. Du coup, ça leur fait du bien un peu de sortir, de se rappeler pourquoi ils font de la musique.
Donc vous parliez du temps, comment faites-vous pour gérer votre temps, pour vous consacrer à vos tournées, à la création, à l'enregistrement de votre nouvel album, à l'enseignement, à communiquer sur votre actualité, là, comme vous le faites avec moi ?
Bah, heureusement, j'ai un manager qui m'aide beaucoup. J'ai un agent qui s'occupe de trouver les concerts, puis le manager s'occupe de les lier, Il s'occupe de répondre à beaucoup d'emails. Et musicalement, j'ai toujours trouvé très important de prendre du temps chaque année, par exemple un mois en hiver, pour aller me mettre un peu dans la nature et vider ma tête de son, écouter le silence autour de moi et puis finalement entendre le son qui vient de moi. Et c'est comme ça que j'ai écrit beaucoup de musique. Donc prendre du temps à part, en fait, ça devient productif à la fin pour moi. Et puis bah, cette semaine-là, ça fait longtemps qu'on a commencé à enregistrer cet album avec Jake Sherman, qui est le producteur. Et du coup, là, j'avais une semaine de rien avant ma semaine à Birdland. Donc, je suis venue pour enregistrer avec lui.
Est-ce que vous voulez bien nous parler de cet album?
Eh ben, c'est le premier album. C'est vraiment différent de tous les albums que j'ai jamais fait. C'est surtout des compos originales. C'est très produit. C'est-à-dire que on commence avec juste moi, avec la guitare et voix. Et après, on ajoute la basse, on ajoute la batterie. Des fois, on fait la batterie nous-mêmes. Genre, on enregistre moi qui croque un gâteau. Et là, ça fait le downbeat. Enfin, voilà. On fait tout nous-mêmes, quoi. Après, on ajoute plein de layers. On met du rose, du piano, de l'organe. Parce que lui, il est organiste. Et après, on rajoute les trompettes. Bah, aujourd'hui, on va mettre les trompettes avec Wayne Tucker. Puis la guitare avec Michael. Et donc, c'est vraiment différent de tous mes autres albums où on était tout le groupe dans le studio. Et puis, allez, on y va. 1, 2, 3, 4. Et on fait le morceau. Là, c'est très produit. On écrit tout au studio. C'est juste Jake et moi dans le studio, 10 heures par jour, en train de trifouiller avec des sons. C'est trop beau et j'adore. Et là, j'y vais après ça. J'ai trop hâte.
Comment est-ce que vous composez?
Comme j'ai dit, dans la jungle, je compose beaucoup quand je vais dans la nature. J'ai un ukulélé baryton avec qui je voyage. C'est plus petit qu'une guitare, donc j'aime bien. Je déteste porter plein de trucs. Mais aussi, je compose avec ma loop machine. J'ai composé plusieurs morceaux avec cette machine qui entasse les voix, là. Puis aussi, ouais, j'ai composé quelques morceaux avec des amis en collaboration.
Qu'est-ce que vous avez appris sur votre voix au fur et à mesure que vous avancez dans votre carrière?
Ma voix, c'est ma voix et j'aurai aucune autre voix que celle-là. Du coup, des fois, quand je suis pas contente avec ma voix, quand j'ai l'impression que je suis nulle, je me rappelle que d'autres gens aiment bien ma voix. Je fais la paix avec ma voix. Et aussi, surtout, j'ai appris que mon son, je vais jamais trouver mon son et dire ça y est, c'est mon son. Mon son, c'est vraiment la recherche de mon son. C'est ça, mon son. Toujours chercher. C'est pour ça, je pense que j'ai une quinzaine d'albums à mon nom. C'est parce que j'aime bien tout essayer. Je crois qu'à la fin, c'est ça mon son. J'ai l'impression que pendant un moment, quand on commence à faire une carrière, on croit « Ah, il faut que je trouve c'est quoi mon son ?» Et ça y est, parce que c'est plus facile à vendre si on sait ce que c'est. Mais à la fin, moi, je veux pas rester dans le même truc toute ma vie. Et j'aime bien tout explorer, du Sondheim au Manouche, au Brésilien, au Big Band, au Duo, tout. Mon son, en fait, c'est ma voix. Donc c'est pour ça qu'il faut être en paix avec sa voix.
Et de varier les styles musicaux, ça vous aide à explorer votre voix différemment, à explorer sa sonorité?
Bien sûr. Même quand j'ai emménagé à Nouvelle-Orléans, après avoir été 10 ans à New York, j'ai senti quelque chose de différent dans la manière dont je chantais, juste parce que j'étais tellement inspirée par la culture de Nouvelle-Orléans. C'est pour ça, voyager aussi, ça inspire énormément. Connaître d'autres gens, connaître d'autres musiciens, apprendre un nouveau répertoire.
Qu'est-ce que votre voix dit de vous? Que laisse-t-elle transparaître sur votre personnalité, votre caractère?
J'aime bien être dans le moment présent. C'est important pour moi. Et j'aime bien m'amuser, jouer. Je pense que d'un côté, j'ai l'impression des fois d'être un peu même feignant, d'avoir trop envie de m'amuser tout le temps. Et après, en fait, je me dis, j'ai quand même fait du bon travail. En fait, c'est en m'amusant que j'ai fait tout ce bon travail. Comme je disais, je suis pas vraiment académique. Je passe pas des heures à faire des échauffements et tout ça. Du coup, des fois, je me sens un peu coupable. J'ai l'impression que je fais le minimum. Mais en fait, je fais pas le minimum à la fin quand je regarde ma carrière et quand je regarde tous les concerts que j'ai fait et tous les albums que j'ai enregistrés. Je fais juste ce qui me plaît. Et il y a beaucoup de choses qui me plaisent. Pas m'échauffer. Ça m'a pas encore, c'est pas encore quelque chose que j'ai aimé. Ça m'a pas encore amusé. Mais j'ai envie de trouver l'amusement dedans. Je sais que j'en ai besoin. Mais c'est pour ça que j'ai l'impression des fois que je suis feignante parce que ça m'amuse pas de m'échauffer. Je sais qu'il faut que je m'échauffe, mais je le fais pas parce que ça m'amuse pas. Mais bon, je fais beaucoup d'autres choses, donc. C'est pour ça que je fais de la musique, en fait. Je fais pas de la musique pour être bonne à la musique. Je fais pas de la musique pour être la numéro un ou pour être la plus belle voix ou pour avoir la meilleure technique. Je fais de la musique parce que ça me plaît et ça me fait du bien et je fais ce qui me plaît, ce qui me fait du bien.
Donc vous allez bientôt venir jouer en France. Il y aura un concert à Blois pour Olva Jazz. Est-ce que vous voulez bien nous parler de ces dates à venir?
Oui, pour cette date-là, je serai avec mon groupe de Nouvelle-Orléans, avec Lex Warshawski à la basse, Dave Torkanowski au piano, qui est un pianiste légendaire de Nouvelle-Orléans, et Pedro Segundo à la batterie et percussion, qui est un batteur incroyable du Portugal, mais qui habite à Nouvelle-Orléans aussi. C'est un peu le quartet avec qui je joue en ce moment. Ouais, il y aura un peu de tout, quoi. J'ai pas envie de dire ce qu'il y aura, mais parce que je sais pas.
Est-ce qu'il y a d'autres choses concernant votre actualité dont vous aimeriez nous parler?
Le concert et puis l'album. Avec le dernier album, I'll Be Seeing You, j'ai fait mes premiers vinyles. Ça, je suis très contente. J'aime trop avoir des vinyles. On peut les acheter en ligne. Voilà, je vais en tourner.
Et pour les personnes qui viennent en concert, est-ce que les vinyles seront dédicacés?
Oui, bien sûr. Et aussi, je joue au Festival de Chantilly le 2 juillet.
Moi, je mettrai évidemment tous les liens pour vous retrouver dans la description.
Est-ce que vous pouvez mettre aussi le patreon.com?
Oui, vous voulez bien expliquer peut-être pour ceux qui ne connaissent pas?
Patreon, c'est un site, c'est un peu comme Kickstarter, mais c'est un site où je publie des chansons que j'écris ou des morceaux que je joue avec des amis. Je publie du contenu exclusif que je publie nulle part ailleurs. Des chansons que je suis en train d'écrire, donc des fois c'est même pas fini. Je demande l'avis de mes patrons et tout ça. Par exemple, l'album I'll Be Seeing You, il était exclusif sur Patreon pendant des mois avant de sortir au public. C'est une manière pour les fans d'aider les artistes qu'ils aiment et d'avoir une relation exclusive avec eux.
Pour terminer, une question que je pose à tous les invités. Quel chanteur, chanteuse, professeur de chant francophone aimeriez-vous écouter sur le podcast?
Leila Martial.
Ah, elle est déjà passée.
Ah,
c'était un super épisode. Oui, elle est incroyable. Ouais, Leila Martial.
Ouais, trop incroyable. Nathalie Dawn.
Ah, je ne connais pas. Alors c'est parfait. C'est une chanteuse.
Ouais, c'est une chanteuse, elle habite à LA. Elle est dans le groupe qui s'appelle Pamplemousse.
Très bien, mais j'irai découvrir. Merci beaucoup. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour être une artiste, une chanteuse encore plus épanouie?
Bonne santé.
Mais je vous souhaite une très bonne santé et puis de beaux moments en studio et sur scène. Et j'étais très heureuse de pouvoir échanger avec vous.
Merci, pareil.
À bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
La clé de la voix, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous mercredi prochain. Pour découvrir les coulisses du podcast, les citations des invités, retrouvez-moi sur Clémentine Coppolaine sur les différents réseaux sociaux. Comme toujours, les notes de l'épisode sont en description, ainsi que des exercices gratuits à télécharger. Le lien est en barre d'infos ou sur laclédelavoix.com/3superexercices pour apprendre à maîtriser sa voix. Merci d'avoir écouté La Clé de la Voix. Je vous souhaite une belle pratique vocale.